sur notre cinquième message dans cette série, dans le livre de 1 Samuel de l'Ancien Testament, s'appelle « Vivant en adorant ». Il y en a une phrase qu'on aime bien chaque fois lire avant de chaque série. « La vie que Dieu nous donne doit être vécue en complète confiance et en regardant les difficultés comme des occasions de rapprochement au temps de sa grâce pour trouver l'aide nécessaire et ainsi lui rendre gloire. » Le verset biblique en lequel on s'appuie pour cette série, c'est « Mais l'heure vient, elle est déjà venue », c'est Jésus qui parle, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand on parle d'adoration, c'est plus qu'aimer quelqu'un. C'est quelque chose de plus haut qu'aimer. Parce qu'on aime quelqu'un, si, mais s'il y a quelque chose qui arrive, on peut cesser d'aimer. Mais quand j'adore quelqu'un, c'est plus que cela, je mets le tout de ma vie dedans. On arrive à ce point dans l'histoire de 1 Samuel, où le peuple d'Israël avait perdu cette bataille contre les Philistins parce qu'ils croyaient que Dieu était comme on a vu la semaine dernière, comme une porte-chance. On crie à Dieu que quand on a besoin, et après on l'oublie. « Oh mon Dieu !» On l'entend, c'est pas simplement dans les films, mais des gens autour de nous. Mais après que Dieu, entre guillemets, fait quelque chose, Dieu n'est plus là. Oh, on s'en fiche de Dieu. Et donc on le porte avec une petite croix ici. On le porte parfois dans le portefeuille avec une photo supposée de ce Jésus avec les cheveux longs, etc. Mais après, pour le peuple d'Israël, ce n'était pas comme ça, c'était l'arche de l'Alliance. Donc il avait quelque chose qui représentait la présence de Dieu. Donc il l'emportait dans une ville, dans une bataille, pardon, pour dire, bon, on a Jésus avec nous, ils ont perdu. Et l'arche a été reprise par les Philistins, et les Philistins l'ont gardée pendant 6 mois. Et les Philistins ont souffert. Parce que la présence de Dieu était plus forte qu'eux. Finalement, l'arche revient. Et il passe un temps où le peuple d'Israël cesse d'adorer Dieu. Parce qu'il n'avait pas un prophète ou quelqu'un qui les guide. Parce que la personne qui était là, Élie, avait décédé. Et il était déjà ancien, il était vieux, il ne voyait pas. Et Dieu l'avait dit déjà qu'il allait mourir et il est mort, il est tombé en arrière, il est mort, et comment on dit quand tu... C'est...
Coule
là-bas. Coule là-bas, merci. Mais alors, ça arrive un moment où le peuple d'Israël était sans prophète, mais Dieu lève Samuel. Et Samuel était quelqu'un qui est grandi à côté d'Élie. Il a entendu parler de Dieu, il a commencé à comprendre comment Dieu lui parlait. Il a commencé à quoi ? À redire ce que Dieu lui disait. Et on arrive à ce point-là où il va appeler le peuple d'Israël à... Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase en français, j'aime bien trouver des phrases. Parce que, bon, comme vous entendez, je ne suis pas français, je suis argentin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et faire table rase. C'est pas tout jeune, tout nouveau, comme les gens le disent, mais faire table rase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire selon vous, faire table rase? Pardon? D'accord, mais c'est ça. En fait, faire table rase, ou tout effacer pour repartir à zéro, l'expression date du 19e siècle. Voilà. Bon, je vois, j'aime bien. Je ne suis pas français, j'aime bien chercher tout ça. Parce que j'aime bien comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit. Y avoir la raison. Donc, elle symbolise une forme de virginité. Donc, l'origine latine est une tablette de cire vierge sans inscription. Il s'agit volontairement de revenir à l'état d'origine pour repartir sous des nouvelles bases, une bague lisse. En fait, race, ça vient aussi de raboter. Alors, ce matin... Le titre de notre message, c'est quoi? Fais table rase et laisse la place à Dieu. Et vous allez voir pourquoi le titre, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Raboter, pour ceux qui connaissent raboter, c'est une petite pièce soit machine électrique ou soit la main, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui est vieux, tout ce qui est collé, surtout sur le bois, qu'on le voit surtout. Mais Samuel va à dire au peuple d'Israël, il faut qu'on commence de zéro. Il faut commencer de zéro. Si vous avez votre Bible, je vous invite à lire à 1 Samuel chapitre 7. On va rester que dans le chapitre 7 aujourd'hui. Sinon, ça va être affiché sur l'écran. Mais si vous avez votre Bible, c'est bien pour ne pas perdre l'habitude de chercher. On va lire pour l'instant du verset 3 au verset 6. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur, et si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez, on va dire rabotez, d'accord? Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et des Astarté. Astarté, c'était une des déesses qui avait dans ce moment-là, qui était une déesse qui est de la reproduction, de la féminité, de tout cela. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astarté, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemble tout Israël à Mispa et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa et puissent de l'eau, et là répondirent devant l'Éternel, et jeûnèrent ce jour-là, et en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Quelque chose d'intéressant. La première chose qu'on voit ici dans ce passage, c'est quoi? C'est qu'il faut reconnaître et se repentir. Tous les peuples d'Israël savaient ce qu'ils faisaient. En ayant de ce type des idoles, ils étaient en train de mettre en colère Dieu. Parce que depuis avant, même avant, quand ils sont partis d'Égypte, quand l'Éternel lui donne les 10 commandements, vous avez entendu parler des 10 commandements. Le premier commandement dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Déjà, on cassait le premier. Mais je fais 9, je garde 9 de ce 10. Bah, c'est les 10 ou rien. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un 9 sur 10. Ça va être 10 sur 10. Donc, déjà, le peuple Israël était en train d'aller contre la volonté de Dieu directement. Et Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire table rase. Il faut enlever tous les idoles. Mais pas simplement les idoles, il faut le reconnaître en premier. Oui, j'ai des idoles. Il faut les ramener devant l'Éternel pour commencer les autres, pour oublier tout ça, pour que l'Éternel nous puisse vraiment nous aider. Et se repentir de quoi? De les avoir fait. Parce que c'est marqué, c'est ça, et c'est simple. Hein? Donc, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Donc, il faut reconnaître que j'étais en train de servir des autres dieux. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et on voit que le peuple d'Israël, il est venu le faire. Et le peuple d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals d'Astarté et servit l'Éternel seul. Quelque chose d'intéressant. Et le prochain verset. Et s'ils assemblaient à Mispa, ils puissèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Cette façon de dire, c'est de dire, et c'était. Ils se repentissent, ils vont répondre de ce que ça veut dire, ils se repentissent de ce que ça veut dire. C'est une façon de dire. Alors la question c'est que si je veux laisser la place à Dieu, il faut que je fasse table rase et mes idoles. Personnel. Mais c'est quoi un idole? Un idole c'est toute chose qui prend la place de Dieu. Et se repentir, ça veut dire changer de direction. Je vais dans une direction, je vais vers Van, mais non, je me suis trompé, je reviens vers Auré, un exemple. C'est tourner complètement à 180 degrés. Donc ça veut dire, c'est quoi un idole? Un idole, c'est quelque chose qui peut être un péché. Et le péché, c'est tout ce qui va contre la sainteté de Dieu. Par exemple, le mensonge, la convoitise, l'adultère, la pornographie, le vol, la médisance, la colère qui termine en haïssant quelqu'un. Tout ça, c'est péché. Tout ça va contre la sainteté de Dieu. Et Dieu ne peut pas supporter cela. La Bible nous dit que nous tous sommes péchés et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous tous. Comme se passe dans ce texte, les gens ont dû venir et reconnaître leur péché et laisser leur idole et les casser dans un sens. Parce que ce n'est pas simplement le laisser empiler, le casser, le brûler. Et une idole, qu'est-ce que ça peut être aussi? La nourriture, le travail, l'argent, la santé, la famille, Facebook, Instagram, les likes, qu'on dit comme ça aujourd'hui, sur Instagram, ou être vu, ou combien de gens j'ai abonnés à ma chaîne. Tout ça, c'est devenu des idoles aujourd'hui. Mon petit ami, ma petite amie. Un idole, c'est tout pour ce que je vis. En tant que... évidemment. Et ici, ce que Samuel lui demande, c'est tout laisser. Tout déposer. Si on veut voir Dieu agir. Si on veut voir Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va agir, que Dieu ne va pas agir si moi je ne le fais pas. Dieu va agir parce qu'il est Dieu. Il ne fait pas les choses parce que je lui demande. Il fait les choses parce qu'il est Dieu. Point. Je ne peux pas obliger à Dieu de dire, je vais prier 3 fois par jour, donc Dieu, tu vas agir. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais il dit, fais table rase de tes idoles. Mets-le devant. Et laisse-moi agir. La première chose, c'est de repentir, c'est de reconnaître, mais après se repentir. Et si j'ai des idoles, si j'ai des péchés, je ne peux pas demander à Dieu quoi que ce soit, parce que venir devant sa présence, je dois venir pur. Pour ceux qui m'entendent la première fois parler de cela, la Bible dit que je ne peux pas venir devant lui avec le péché, mais Dieu a fait en sorte, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a prouvé son amour envers nous. Or, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si Christ est mort pour nous, et de dire, je te donne la possibilité de venir devant moi, même si tu es impur, de venir pur à travers Christ. Dieu dit ça. Et comment il a fait? Il a prouvé son amour à la croix. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner cet espoir. Donc la Bible dit que je peux venir devant Dieu pur maintenant à travers Christ. Mais sans Christ, je ne peux pas. Mais comment j'arrive à cela? Je dois reconnaître mes péchés. Je dois reconnaître que je suis pécheur. Parce que je ne vais pas au médecin si je ne crois pas que, je suis malade. Sinon, je vais au médecin inutilement. Le médecin ne va pas découvrir par lui-même, ah vous savez ça, il faut que je reconnaisse tout ce que j'ai. Devant Dieu, c'est la même chose. Je ne peux pas venir devant Dieu dire, bon, fais quelque chose pour moi. Mais Dieu dit, qui es-tu? Es-tu mon fils? Es-tu mon enfant ou pas? Dieu n'est pas méchant, mais avec les non-croyants. Dieu donne sa grâce. Mais il y a un surplus de grâce, un surabondant de grâce quand on vient à travers Jésus-Christ. Et comment on fait? On demande. Je sais, Seigneur, je suis pécheur, j'ai besoin de toi. Deviens, je dépose ma foi en toi. Et Dieu, dans ces moments-là, il devient ton papa, ton Père éternel, ton sauveur. Mais il faut se repentir. La Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle plus de l'enfer que du ciel. La Bible dit, on était condamnés, Jean 3, 18, Celui qui n'a pas cru, il est déjà condamné. Donc on marchait vers l'enfer, la condamnation éternelle. Mais quand on accepte Christ comme sauveur, qu'est-ce qui se passe? On retourne 180 degrés pour aller vers le ciel. Et il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est super. Une fois que l'arrière tourne à 180 degrés, il n'y a pas de retour en arrière. Mais il faut, pour faire table rase et laisser Dieu et laisser la place à Dieu, il faut reconnaître ses idoles, les péchés, et il faut se repentir. Se repentir. Quelles sont vos idoles? Je ne vais pas vous demander de le dire, parce que ce n'est pas la place pour le faire. Mais il faut que vous voyez dans votre cœur quels sont les péchés qui vous empêchent de vivre en ouverture devant Dieu. Comme vous l'avez entendu, comme vous on le vit presque chaque dimanche, on expose, on prie les uns pour les autres. Et parfois, c'est difficile de dire les choses. Mais on ouvre nos cœurs, pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu nous entend. Mais il faut venir et reconnaître et se repentir. Pour lever, pour que Dieu fasse la place qui prend sa main, en train de raboter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Mais l'histoire ne se termine pas là. Et ça, c'est super. Parce qu'il faut commencer par cette partie-là. Il faut commencer par enlever tout ce que Dieu veut qu'on enlève, que lui seul ait la place dans notre vie. Pas autre chose. Parce que sinon, la Bible le dit, même s'il parle de l'argent, je ne peux pas servir de maître. Parce que l'un va avoir surtout, souvent plus de mon attention va être plus dans un que l'autre. Soit c'est Dieu, soit c'est rien. Dieu est un Dieu exclusiviste? Ah oui. Bien sûr. Mais est un Dieu exclusif, pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu de provision, un Dieu juste, un Dieu qui est notre avocat, un Dieu qui intercède pour nous. Nous pouvons continuer, versets 7 à 14, et ceci. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Donc les Philistins, c'était l'ennemi d'Israël à ce moment-là. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent quoi? Peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer d'Israël. L'Éternel fit quoi? Retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Et les mis en déroute, ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour suivre les Philistins et bâtir jusqu'au-dessus de Beshka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen et appela au nom de Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. » Et ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retourna à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Fort. Ils étaient tous en train d'adorer l'Éternel, de revenir à l'Éternel, de laisser tous ces idoles, et d'un coup, ils voient l'ennemi devant. Et qu'est-ce qu'il y a à Israël? Comme nous tous parfois, quand on a une situation difficile, on a peur. Mais ils avaient vu comme l'Éternel avait fait ces choses avant. Ils connaissaient l'histoire de Moïse. Ils connaissaient l'histoire comme il avait sorti d'Égypte avec des choses énormes que l'Éternel avait fait. Mais ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils se sont demandé à l'homme de Dieu de prier pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment c'est passé parce que la Bible n'a pas d'explication et plus. L'Éternel fit retentir en ces jours et son tonnerre sur les Philistins. Je ne sais pas si c'était une tempête, une énorme tempête qui est venue sur eux, ou des éclairs, on ne sait pas. Mais c'est quelque chose qui les a fait fuir. Quand nous venons devant l'Éternel et nous faisons table rase et on le laisse sa place, il emporte, il combat pour moi. Il emporte le combat pour moi, à ma place. Vous voyez, les Israélites n'ont rien fait. Bon, ils sont sortis après pour les chasser. Mais après, et il va devant moi et il gagne toutes les batailles pour moi. Toutes les situations compliquées et difficiles, il les gagne. Pourquoi j'ai peur donc? La peur s'efface devant la réponse de Dieu. La paix que Dieu donne est extraordinaire. Il va toujours faire retentir sa puissance et sa volonté d'une façon extraordinaire, selon sa volonté et selon ce qu'il considère comme bon. Regardez ce qu'il dit, et le psaume 56. Au chef des chantres, sous colombe, des térabantes, lointain, hymne de David, lorsque le Philistin le saisit à Gath. C'est pas le même instant, c'est plus loin, mais c'est les mêmes ennemis. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des autans. Quand je suis de la crainte, parfois on connaît ces versets par cœur. Que ces versets? Quand je suis dans la crainte, en qui je me confie? Dans l'Éternel. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien qui peut me faire des hommes. Il y a des autres psaumes qui disent: ceux-ci confient dans leur chevaux, mais nous confions dans l'Éternel des armées. Je ne peux pas mettre en confiance des choses éphémères qui tombent, qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Mais quand je mets ma confiance dans l'Éternel, qui peut me faire les hommes? Je ne peux pas dire que Samuel n'avait pas peur. Je ne peux pas dire parce que je n'étais pas là. Mais je peux dire que quoi? Que Samuel avait une confiance extraordinaire à son Dieu. Et le même Dieu de Samuel est le même Dieu aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ça manifeste d'une autre façon. Il emporte toutes les choses à ma place. Et évidemment, la présence continuelle et inconditionnelle dans ma vie apporte la sûreté nécessaire pour ne pas fléchir devant les choses adverses. Si nous regardons les choses difficiles comme des géants, Dieu n'est pas mon Dieu. Les géants deviennent plus grands que mon Dieu. Et évidemment, quand je vois ces géants devant moi, Dieu est un Dieu petit. Mais c'est tout l'inverse. Et notre ennemi, Satan, le sait très bien. Il sait que quand il y a des situations adverses qui sont compliquées pour moi et je commence à trembler, à avoir peur, comme le peuple d'Israël, peut-être je vais voir mon Dieu comme petit. Mais c'est tout à fait, c'est complètement l'inverse. Et c'est complètement l'inverse. C'est intéressant que Samuel laisse comme un mémorial ou un souvenir, il prend une pierre. Cela simplement veut dire, c'est comme un appui visuel, rien d'autre. Ce n'était pas destiné à que le peuple d'Israël vienne adorer la pierre. D'accord? Simplement quelque chose de visuel pour que le peuple d'Israël sache, ici, jusqu'à ce moment-là, l'Éternel le sait, aider. Jusqu'à ce moment-là, l'Éternel nous a aidés. Pourquoi? Parce que pour plusieurs fois, si vous lisez l'Ancien Testament, si vous lisez la Bible, vous voyez que plusieurs fois le peuple d'Israël oubliait l'Éternel. Il fallait que quelque chose de visuel soit là pour nous rappeler de cela. Il combat à ma place et il emporte à ma place. Quelle merveille de savoir que les luttes du quotidien ne doivent pas être, je ne dois pas les porter tout seul. Sinon, les laisser aux pieds de celui qui peut faire plus de ce que je pense ou je crois. Il est tout puissant. Et Dieu va faire retentir son tonnerre, sa volonté, sa puissance, sans que je me rende compte. Oh, il m'a fait, il va le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Mais à sa façon. Il va emporter le combat à sa façon, pas à ma façon. Parce que sinon, ce n'est pas Dieu. Il est simplement quelqu'un que je demande en faveur, et après cette faveur, c'est fini. Non, Dieu veut une relation. Il va avoir tout de suite cela. Dieu veut avoir une relation avec toi et moi, personnelle. Pas simplement une fois par semaine, le dimanche. Parce qu'ici, on vient pourquoi? Parce qu'on aime Dieu, oui. Mais parce qu'aussi, on veut avoir une relation interpersonnelle les uns avec les autres pour s'encourager mutuellement. Versets 15 à 17. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Et il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal ou Gilgal et de Mizpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où il était à sa maison et il a jugé Israël. Il a bâti un hôtel ou quelque chose de visuel et à l'Éternel. Donc, évidemment, ici, et quand on lit la Bible, pour ceux qui veulent lire la Bible, parfois, d'un verset à l'autre, il y a plusieurs années qui passent. D'accord? Donc, Samuel allait d'un lieu à l'autre, c'était chaque année. Donc, Samuel, en tant que prophète, en tant que dirigeant et spirituel, avait aussi des responsabilités sociales, militaires et religieuses. D'accord? Donc, il était en charge de tout cela. Mais, ce qu'on veut voir ici, c'est que quand on laisse la place à Dieu, il faut que je trouve quelqu'un avec qui parler. Samuel s'est déplacé. Samuel était intentionnel. Samuel était là pour aider, pour guider le peuple d'Israël. Si bien, aujourd'hui, Dieu nous a laissé son esprit pour cette mission-là, cela ne veut pas dire que nous devons rester seuls. D'accord? Alors, évidemment, Dieu nous a créés pour le relationnel. Dieu n'a pas créé simplement Adam ou seulement Ève. Il a créé Adam et Ève pour qu'ils puissent discuter, parler et ainsi de suite. Et on a jusqu'à nous aujourd'hui. La grande problématique, c'est que le péché a fait en sorte que nous font croire que je peux faire tout seul sans personne m'aide. Je ne dis pas qu'il faut être responsable d'une chose. Et vouloir le meilleur pour soi, c'est une chose, c'est bien. Mais je ne vis pas seul. Je ne suis pas le seul dans le monde. Et de toute façon, je suis seul, Dieu est là. Donc, on est de lui. Donc, Dieu nous a créé pour nous relationner. L'apôtre Paul va utiliser différentes images. La famille, un corps, un édifice. Pour parler de l'Église, de tous les gens qui ont un jour mis leur foi en Christ. Comme un tout. Une famille, c'est pas qu'on a des frères et des sœurs. Dans un édifice, on a des poteaux, on a des pierres, on a un tout. Mais tout cela, le maître, c'est Christ. Et si l'édifice, la famille, et tout tient, c'est grâce à lui. Mais Dieu a mis des hommes et des femmes et sœurs en Christ, pour nous aider à continuer à avancer dans notre vie. L'Esprit de Dieu va se servir de ce qu'on connaît de lui déjà pour nous faire grandir. Mais parfois, on ne comprend pas tout. Il a besoin de grandir. Et parfois, il nous faut quelqu'un qui connaisse un peu plus pour nous guider à Christ. Quand on est malade, on va au médecin. Mais quand on est malade d'une façon spirituelle à l'intérieur de nos âmes, le médecin ne peut rien faire. Parce qu'une pilule, ça va simplement calmer l'extérieur, mais pas l'intérieur. Quand on est stressé, quand on a une tristesse profonde, je dis tristesse profonde à la place de dépression. D'accord ? Je n'ai pas trop le mot dépression. Dans ce moment, je vais vous expliquer pourquoi. Tristesse profonde, peur, tout cela, aucun médicament ne peut l'enlever. Christ peut l'enlever. Seulement lui. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide à faire cela. C'est pourquoi on insiste. Dieu nous a formés à travers sa parole, à travers certaines choses qu'on a apprises avec ma femme Marcella, pour vous accompagner. Si quelqu'un a besoin de cela, c'est gratuit. Il n'y a pas, il n'y a rien à payer. Christ nous a donné son salut gratuitement. Nous, on ne facture pas. Mais ce n'est pas pour nous faire connaître, c'est pour dire on sait comment vous aider. D'accord? Il y a des autres aussi ici qui peuvent vous aider. Ce n'est pas que ma femme et moi. Nous sommes encore. Il faut trouver quelqu'un comme Samuel le faisait pour aider les uns les autres. Il faut être disposé à écouter et accompagner avec la Bible. Avec la Bible, mes amis, les uns et les autres. Parce que Samuel, évidemment, il n'avait pas la Bible. Il avait probablement les écrits de Moïse. Mais la Bible, c'est d'où on tire tout. La guérison de l'âme vient de la part de Dieu, mais c'est écrit. Je ne veux pas inventer quelque chose que je ne veux pas faire. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a mis l'âme dans le cœur, dans le corps de l'homme et de la femme. C'est Dieu qui sait comment guérir cette âme. Donc, le seul qui a cette possibilité de le faire, c'est Dieu. Mais Dieu utilise des gens et des situations pour nous faire comprendre sa volonté. Il nous faut quelqu'un. On n'est pas seul. Mais il faut faire table rase et laisser la place à Dieu. Et laisser la place à Dieu. Et il est seul qui peut le faire. Il est seul qui peut le faire. Faire table rase et laisser Dieu agir est important et nécessaire. Parce que nous devons revenir au cœur de la louange. Que toute notre vie soit centrée sur Christ et qui règne en nous. C'est lui qui a fait l'impossible pour faire cette table rase de nos péchés. Il y a un dernier chant qu'on va chanter ensemble qui s'appelle « Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. » Mais il ne peut pas être roi s'il n'est pas mon sauveur. Parce que roi, ça veut dire quoi? Que je lui laisse toute la place. Pas simplement une petite place, c'est toute la place. Un roi prend toutes les décisions de ma vie. Un roi bouge pour moi. Un roi va faire l'impossible pour que moi, je sois bien. Et moi, je peux faire confiance à ce roi. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé son amour envers moi. Et s'il a prouvé son amour en mourant à la croix, sans savoir pécher, et en fait, il a ressuscité, encore une fois, comme je l'ai dit, il a ressuscité pour nous montrer qu'il était un roi puissant. Je peux lui faire confiance. Il faut se repentir, il faut lui laisser la place, il va agir. Mais c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Je vous invite à vous lever, on va